Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Un tribunal algérien a condamné à mort 49 personnes. Condamnation pour le lynchage en 2021 en Kabylie d'un homme accusé à tort de pyromanie. L'épidémie de choléra au Liban, la société médicale euro-libanaise tient un séminaire en ligne ce jeudi soir. Parmi les participants, la médecin infectiologue Madonna Matar. La vaccination nous aidera à limiter les dégâts, mais la vaccination n'est pas la seule solution, nous dira-t-elle. Entretien dans votre édition. La vacance présidentielle au Liban, pas de nouveau président élu à l'issue de la 7e séance électorale ce jeudi matin. Une quinzaine de femmes afghanes ont manifesté à Kaboul, une brève manifestation pour défendre leurs droits. Le Tunisien Yamen Manaï a remporté en France le prix de la littérature arabe, une récompense pour son roman Bel Abîm, édité par Elizad. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce vendredi, le gouvernement français annonce la création d'un comité d'action contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans les transports. Le mondial de football au Qatar, la Suisse a gagné 1-0 face au Cameroun, match nul, 0 partout entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Un tribunal algérien a donc condamné à mort 49 personnes. Condamnation pour le lynchage en 2021 en Kabylie d'un homme accusé à tort de pyromanie. Jamel Bensmaïl s'était porté volontaire dans le village de Larbanas Irassen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, pour aider à éteindre des incendies qui avaient fait 90 morts en moins d'une semaine. C'était en août 2021. Ces peines devraient être commuées en prison à vie. La peine capitale, qui continue d'être prononcée par des tribunaux algérien n'est plus appliqué en Algérie depuis 1993 en vertu d'un moratoire sur les exécutions. Il faut empêcher que l'épidémie de choléra au Liban se transforme en pandémie, c'est ce que nous dit la médecin infectiologue Madonna Matar. Elle participe ce jeudi soir à un séminaire en ligne consacré à cette épidémie, sur cette épidémie de choléra qui sévit depuis octobre dernier au Liban. Entretien avec le docteur Madonna Matar.
L'épidémie avait commencé le 6 octobre dans la région du nord du Liban. Et puis, ça s'est répandu dans d'autres régions, mais la majorité, la concentration, elle reste toujours au nord. Donc, on a aussi eu des cas, ça a commencé avec dans les camps de réfugiés chez les Syriens, et puis ça s'est sorti de là-bas, et puis ça s'est répandu dans plusieurs villages du nord du Liban. Des cas aussi, il y a des cas, et puis il y a des cas éparpillés un peu partout dans les régions libanaises.
Est-ce que vous pouvez nous faire part aujourd'hui de vos actions et des actions des autorités pour tenter de contrer cette épidémie?
Depuis que ça a commencé, le ministère de Santé a lancé une alerte au niveau de tous les ministères, parce que là, c'est pas une affaire seulement de ministère de Santé, mais tout le monde doit être là, tout le monde doit travailler, aider. Parce que principalement le problème que cette maladie, cette bactérie du choléra, elle se transmet par l'eau. Et quand l'eau est souillée, ça risque de souiller toutes des régions parce que l'eau, elle irrigue plusieurs régions, plusieurs villages, plusieurs villes. Et le problème, c'est que l'état sanitaire, c'est-à-dire tout le système sanitaire, infrastructure au Liban, à cause du fait qu'on a un problème avec l'électricité. L'électricité, l'État nous procure l'électricité, disons, une heure par 24 heures seulement. Et puis le reste des 24 heures, c'est par des moteurs, des générateurs que l'on s'alimente pour avoir de l'électricité. Et parce qu'il y a aussi au Liban, à cause de cette défaillance et la chute économique qu'on a eue, et puis la dégringolation de la livre libanaise, le mazout qu'on utilise pour les générateurs coûte énormément cher. C'est pourquoi on n'a plus l'électricité 24 heures sur 24. Il y a des coupures de courant pendant plusieurs heures par jour. Et quand il y a des coupures de courant, les générateurs aussi, ils s'arrêtent. Donc, les pompes d'eau, les pompes de filtrage d'eau s'arrêtent. Donc, et s'il y a déjà un problème à la base, donc l'eau potable, elle est même souillée par l'eau des égouts. D'accord? C'est le problème principal. À part l'eau qui peut être contaminée, dans les régions du Nord et dans plusieurs régions, parce que par manque d'eau, manque d'électricité, donc manque d'eau aussi, ils sont en train d'arroser les plantes, les plantations, par des eaux qui sont pas propres, des eaux d'égout et contaminées. Donc là aussi, pour les légumes, ça, c'est dangereux. Donc nous, on a tout de suite commencé à travailler avec le ministère de Santé, à travailler avec toutes les organisations mondiales, comme l'OMS, le UNICEF, beaucoup, beaucoup, toutes ces organisations qui sont au Liban, Médecins Sans Frontières, etc., la Croix-Rouge. Et on se réunit au moins 2 ou 3 fois par semaine. Donc, chacun a offert un certain support et des aides. Chacun a pris un secteur. Par exemple, la chlorination de l'eau, rajouter du chlore dans l'eau, pouvoir procurer de l'électricité pour faire fonctionner ces pompes d'eau dans tous les centres, dans tous les villages. Principalement, on a commencé par les villages qui sont le plus affectés et les villes. Et puis, on a préparé aussi pour l'hospitalisation, il faut préparer les kits, préparer les lits d'hôpitaux, les perfusions qu'il faut donner aux malades, les solutions de ORS qu'il faut boire avec des électrolytes, quoi, parce que la diarrhée est très très forte, donc on doit remplacer tout ce qu'on perd. Il faut aussi entraîner les équipes à comment gérer, parce que c'est la première fois là qu'on a un choléra.
L'ensemble des malades aujourd'hui peut être pris en charge ?
Par le ministère de Santé. Les Libanais sont pris en charge par le ministère de Santé. Et puis les Syriens ou bien les étrangers, par les organisations mondiales, eux, c'est eux qui aident économiquement, je veux dire, pour couvrir l'hospitalisation, les traitements, le chlore qu'on distribue. On a demandé à toutes les personnes, par exemple, dans un village, nous, on essaie de chloriner l'eau à la source. Et puis même dans leur réservoir, dans leur immeuble, ils doivent mettre du chlore chaque semaine, contrôler le chlore, si c'est bien, boire de l'eau potable. On leur a appris comment rendre l'eau potable si elle n'est pas de l'eau fermée par des bouteilles, rajouter 2 gouttes de chlore ou bien faire bouillir l'eau avant de la boire. Donc éducation, beaucoup, beaucoup d'éducation. Il y a des équipes aussi qui s'occupent de ça et qui montent sur le champ pour suivre tout ce qui se passe, si ça se fait selon les règles. En plus, l'OMS nous a aussi aidés pour procurer la vaccination. On a commencé à vacciner les lieux, dans les régions les plus atteintes. Donc, on a commencé une dose de vaccin à toute la population qui habite là-bas. Et puis aussi, on nous a promis, parce qu'il y a aussi un manque de vaccins apparemment mondialement. Donc, on nous a promis un deuxième, troisième lot de vaccins et on va voir le total qu'on va avoir.
Aujourd'hui, vous nous dites que vous manquez de vaccins. Vous n'en avez pas suffisamment pour le moment?
Il n'y a pas suffisamment de vaccins pour la choléra. Mais il faut savoir que la vaccination, elle nous aidera à limiter les dégâts. Mais la vaccination seule n'est pas la solution. La solution, c'est même si dans un pays, vous avez un cas de choléra qui rentre dans un pays, si le système... L'infrastructure sanitaire, elle est appropriée, il n'y aura pas de problème. Mais il faut seulement séparer l'eau des égouts de l'eau potable. Donc c'est le problème majeur.
Et vous mettez en lumière le lien entre la situation économique catastrophique au Liban et la résurgence de cette épidémie de choléra.
Où il y a des cas de choléra, c'est dans les pays pauvres où il manque d'hygiène et d'infrastructure. C'est le problème, oui. Absolument.
Quels sont les principaux symptômes de cette maladie?
C'est principalement la diarrhée. On peut avoir une diarrhée très, très sévère, la diarrhée, donc plusieurs litres par jour. On peut monter jusqu'à 20, 25 litres par jour. Et on n'a pas de fièvre normalement avec la choléra. Parfois, il y a des malades qui vomissent un peu, des douleurs abdominales. Mais surtout, surtout, c'est la diarrhée intense qui devient tellement intense, qui devient comme de l'eau de riz. De l'eau trouble. Et puis, il s'agit en quelques heures, si quelqu'un a une telle, aussi forte diarrhée, il peut mourir en quelques heures. Comment on peut mourir à cause de choléra? On peut devenir, déshydraté. Quand on est déshydraté, il y a des troubles électrolytiques. Le sodium, le potassium, tout change. Donc, on peut avoir des intoxications à cause de la déshydratation et des troubles électrolytiques. Donc, une insuffisance rénale, la créatinine augmente. Et puis, on peut aussi avoir des troubles de rythme cardiaque. On peut avoir tout va découler de cette déshydratation sévère.
Vous participez ce jeudi à une réunion avec d'autres scientifiques concernant cette épidémie de choléra au Liban.
Vrai. Ce jeudi, on a regroupé tous les médecins en Europe, particulièrement la France. On va discuter un peu le sujet du choléra. Le ministre de Santé va leur exposer un peu ce qui se passe au Liban. Moi-même, je vais aussi un peu parler de la situation au Liban. Le président de l'Ordre des médecins va participer pour parler un peu aussi de la capacité du point de vue médical et médecins et hôpitaux, etc. Et puis, il y a deux spécialistes de la France qui vont discuter particulièrement de cette bactérie et des effets néfastes et le traitement Et on va revoir un peu, discuter ensemble, tout à propos de l'épidémie de choléra.
Quelles sont les conditions pour que cette épidémie ne se développe pas davantage? Et disposez-vous aujourd'hui des moyens supplémentaires pour éviter une explosion de cas?
Nous, on a commencé, au fait, partout, dans toutes les régions, avec toutes les équipes, avec toutes les organisations mondiales, les NGO, tout ça, à travailler ce chapitre. Même la Société de maladies infectieuses, moi je suis la présidente de la Société de maladies infectieuses, aussi tous mes collègues médecins infectiologues dans tous les hôpitaux, dans toutes les régions, on collabore et on participe à ce travail. Premièrement, il faut assurer de l'eau propre à boire. Deuxièmement aussi, comment nettoyer tous les légumes, les végétaux, parce qu'il faut manger tous les aliments doivent être bien cuits. Donc aussi, on explique à ce sujet. Donc eau, aliments propres, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Et quand on a des malades aussi, on suit les protocoles d'isolement. Il faut comment traiter les malades, tout le monde maintenant s'y connaît et on distribue tous les guidelines, les protocoles de traitement. Et pour arrêter ceci, la vaccination aussi, elle peut nous aider. Et pour arrêter en plus au niveau du pays, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire. Donc c'est assurer l'électricité, pour assurer de l'eau, c'est l'infrastructure du pays tout entière pour empêcher à ce que ça ne se transforme pas en pandémie.
La médecin infectiologue Madonna Matar. Le Liban vit également une période de vacances présidentielles. Les députés libanais se sont réunis ce jeudi au Parlement à Beyrouth pour une séance consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République. Le poste est vacant depuis la fin du mandat de Michel Aoun le 31 octobre dernier. Faute de consensus, cette septième séance électorale n'a pas abouti à l'élection d'un président. Le prochain rendez-vous électoral pour les députés est fixé au 1er décembre prochain. Le bilan de la répression des manifestations s'alourdit en Iran. 72 personnes ont été tuées la semaine dernière, dont 56 dans les régions kurdes. Un bilan fourni par l'ONG Iran Human Rights. Le bilan total monte à 416 morts depuis le début du mouvement de contestation déclenché le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, cette kurde iranienne âgée de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes iraniennes. Cette répression des manifestations doit cesser, a exhorté ce jeudi le chef des droits de l'homme de l'ONU devant le Conseil des droits de l'homme. 14 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations. Une quinzaine de femmes afghanes ont manifesté à Kaboul, une brève manifestation pour défendre leurs droits à la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021, les droits et libertés des femmes ont été fortement réduits. Les écoles secondaires pour filles ont été fermées et les femmes fonctionnaires sont exclues de la plupart des emplois publics. Les femmes sont aussi empêchées de voyager seules en dehors de leur ville et doivent se couvrir d'un voile intégral. Elles n'ont plus le droit non plus de fréquenter les parcs et jardins de Kaboul, mais aussi les gymnases ou les bains publics. Le Tunisien Yamen Manaï remporte en France le prix de la littérature arabe, une récompense pour son roman Bel Abîme, un livre sur la violence dans les milieux les plus défavorisés de son pays, roman publié par les éditions Elizade. Le prix, doté de 10 000 euros, a été créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du Monde Arabe. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ce vendredi, le gouvernement français annonce la création d'un comité d'action contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans les transports, une annonce de la ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances et du ministre chargé des transports. En France, 87% des usagères des transports en commun déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexiste, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol dans les transports en commun. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, déclin de la France, mythe ou réalité, point d'interrogation. Les invités d'Alexis Bachelet, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Stéphane Rosès, politologue, président de CAP. Stéphane Rosès.
Très prosaïquement, ce qu'en disent les Français eux-mêmes, dans les sondages internationaux, les Français sont les plus pessimistes au monde, avec un ou deux pays économiquement très en en difficulté dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Donc c'est d'abord une perception subjective. Et puis, ces toutes dernières années, par ailleurs, alors qu'il y avait auparavant un contraste phénoménal entre les conditions de vie des Français encore avantageuses par rapport y compris à la situation des Allemands, des Anglais, a fortiori des Européens du Sud, il y avait déjà un très fort contraste qui interrogeait sur les raisons de cette dépression, dont ma grille d'analyse est une grille culturelle et non pas économique et sociale. Et puis, notamment autour du moment de la pandémie, ces toutes dernières années, un affaissement objectif de la France dans tous les secteurs, pas seulement l'industrie, mais l'énergie, où on était leader mondial, l'école, la recherche, même maintenant l'innovation. Donc, je dirais, ce sont des données à la fois subjectives et maintenant objectives qui montrent que nous sommes dans l'œil du cyclone, du malaise de tous les peuples dans la globalisation néolibérale, mais nous, Européens, nous, Français, sommes plus affectés que les autres, justement parce que notre vision du monde, nos façons d'être et de faire sont les plus contradictoires avec la singularité de la globalisation néolibérale.
Le politologue Stéphane Rosès, l'un des invités de Si on en parlait, à 19h et 23h, émission présentée par Alexis Bachelet. Le mondial de football au Qatar, la Suisse a gagné 1-0 face au Cameroun ce jeudi, match nul 0 partout entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Fin de cette édition, un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.